one, two.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine. Pourra-t-on encore séduire, draguer, aborder une femme, lui passer la main sur les épaules ou sur les hanches pour lui manifester notre attirance ? Tout ça sans s'attirer les foudres de la loi, puisque depuis cette semaine, on l'a appris, une loi contre le harcèlement de rue est en préparation. Jusqu'où ira-t-elle ? Ça, on ne sait pas. Le travail a été confié à un groupe de travail de 5 députés qui planchent actuellement sur la définition juridique du harcèlement de rue et de l'outrage sexiste et comment ce sera puni. Sujet connexe, le harcèlement sexuel tout court et les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes. Les langues ne cessent de se délier avec l'affaire Weinstein. On a appris cette semaine que Gilbert Rozon, un pilier du jury de l'émission de M6 La France a un incroyable talent, est visé par plusieurs femmes qui affirment avoir été victimes de sa prédation sexuelle. D'ailleurs, la chaîne M6 renonce à diffuser la 12e saison de l'émission où il était encore juré. Jean Lassalle a aussi été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne attachée parlementaire communiste. Le député du Béarn nie avoir mis une main aux fesses à cette jeune femme comme celle-ci l'accuse. Et puis la fille d'un ancien ministre sarkozyste accuse un ancien ministre mitterrandien d'agression sexuelle. C'est Ariane Fornia, fille d'Éric Besson, qui accuse Pierre Joxe un soir à l'Opéra Bastille d'avoir posé avec insistance à plusieurs reprises la main sur sa cuisse. Cette semaine ont aussi commencé les consultations de l'exécutif avec les syndicats de salariés et de patrons pour la réforme notamment de l'assurance chômage. Et à la sortie de l'une de ces réunions, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a déclaré que l'assurance chômage doit être incitative à la reprise d'emploi, aider réellement à retrouver un emploi, qu'il ne faut pas que ça donne un confort fictif, qu'il faut contrôler les demandeurs d'emploi sur leur recherche, surveiller qu'ils ne refusent pas à plusieurs reprises des offres raisonnables d'emploi. Pierre Gattaz a évoqué un contrôle journalier ou hebdomadaire. Recherche d'emploi, c'est ce dont vont devoir se soucier 60 à 70 salariés du Parti Socialiste qui vont être licenciés en raison de la débâcle électorale du parti. Dans l'actualité de la semaine, des nouveautés qui pèsent sur notre quotidien, comme le beurre. Le beurre, il n'y en a plus, la pénurie s'installe dans de plus en plus de supermarchés. Le rayon beurre est de moins en moins garni à cause de mauvaises récoltes de fourrage, les vaches produisent moins de lait, et puis bon nombre de produits laitiers partent à l'étranger. Autre changement dans notre quotidien, le prix du timbre, on l'a appris cette semaine, il va fortement augmenter, plus 10% pour le timbre vert, passant de 73 à 80 centimes. Quant à celui du timbre rouge, il grimpera de 85 à 95 centimes. Enfin, on l'a appris cette semaine, les Américains veulent fabriquer un avion de ligne supersonique, le Concorde 2, ce sera son nom. 15 ans après la fin du Concorde, la NASA projette de relancer un avion supersonique à vocation commerciale. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir choisis.
La météo de votre région sur RVE.
La météo avant de retrouver l'actualité sportive. Sachez que le temps pour ce dimanche est un temps mi-figue, mi-raisin, alternant des passages nuageux et passages pluvieux et quelques éclaircies. Les températures sont aux alentours de 14 à 15 degrés. On aura des rafales de vent à plus de 50 km/h. Tout de suite, le sport.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre grande émission Omnisport de tous les dimanches. Alors ce matin, on devait parler judo avec Monsieur André Gaillard, président du comité départemental. Il devait être notre invité, malheureusement, il a eu un deuil dans sa famille, hein, et on peut le comprendre, donc le rendez-vous a été reporté. On parlera judo le 12 novembre prochain, et on l'a, du coup, eh ben, on va accueillir un homme du tennis, Hervé Guérin, président de la section tennis du Perret en Yvelines, que je remercie d'être venu au pied levé. Salut Hervé, ça va bien ?
Ça va très bien, pas de problème.
Ouais. On avait promis en tout cas en ce dimanche matin de se revoir très rapidement. Hein. Donc finalement, c'est un peu plus tôt que prévu, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir parler effectivement de la rentrée hein, qui s'est effectuée pour la section tennis du Perret en Yvelines. On fera aussi un peu le bilan de la saison passée et puis on aura encore une page vélo, on aura une page Tour de France puisque c'était cette semaine la présentation du Tour de France 2018 à Paris. Au Palais des Congrès, porte-maillot, on y était. Donc on aura l'occasion d'écouter les quelques interviews que nous avons ramenées. Tout d'abord, Hervé, comment s'est effectuer ce début de saison et cette rentrée pour le tennis au Perret.
Je vais déjà te remercier d'être présent aussi ce matin, parce que ça fait déjà un bon de très longues années que je viens régulièrement à RVE.
Absolument.
Et Philippe, ça fait toujours très plaisir d'être à tes invitations. Et je crois que RVE, qui est une radio locale, c'est bien d'avoir ces radios locales, parce qu'on s'aperçoit qu'avec l'histoire, c'est quelque chose d'important aussi, de façon locale.
La proximité, c'est bien.
Pour dresser, je disais, un bilan rapidement de l'année suivante, on a été très impacté par la baisse des adhérents, notamment chez les adultes. Je rappelle qu'il y a eu le changement des professeurs aussi il y a un an. Donc effectivement, après, les résultats sportifs sont directement en relation, je dirais, aussi avec la baisse des effectifs. Alors je remercie effectivement nos enseignants pour cette nouvelle année, notamment Julien pour sa venue et la reprise en main de l'école de tennis dans un contexte qui est effectivement difficile, ainsi que tous les bénévoles qui m'entourent, il ne faut pas les oublier, donc Christelle, Cécile, Véronique, Sébastien, Franck et d'autres qui aident aussi régulièrement. Alors, cette rentrée, on voit encore le changement aussi parmi nos adhérents, puisque Axel est parti, il est passé son BE à Chevreuse. On avait une belle année avec lui. Donc, il a été remplacé par Claire Soulabaille, donc qui est une jeune du club. Qui tient des beaux classements à 15-2, que l'on connaît tous, parce que donc elle est au club depuis sa création. Claire a commencé à suivre sa formation pour avoir le diplôme d'AMT, d'animateur. Donc elle y va tous les dimanches actuellement. Donc pour l'instant ça se passe bien. Donc j'espère qu'elle va pouvoir avoir ce certificat et qu'elle va pouvoir continuer à pouvoir donner des cours au père. Donc ça, on a toujours nos trois enseignants. Donc ça, c'est une bonne chose. L'autre changement qu'on a eu, donc c'est le retour des cours le mercredi matin, donc suite à la volonté communale de repasser à une semaine de 4 jours pour les élèves du primaire. Donc ça, c'était aussi important. Ça a été il y a 3 ans un peu un choc, parce que c'est quand même une partie pour nous, pour le tennis, tous les tout petits qu'on avait le mercredi matin. Donc depuis les avoir, ça a été dur à réorganiser. Là, on a su fin juin, début juillet. Donc il a fallu de nouveau réorganiser au niveau des cours, donc ça, c'est pas évident.
Avec le changement de ministre et de gouvernement, fatalement.
Exactement. Et donc, il a fallu qu'on compose. Alors, hélas, je dirais, on n'a pas beaucoup encore de cours, puisque les premiers cours commencent à 11h le mercredi. Je pensais qu'on allait pouvoir reprendre plus facilement, et vous voyez, hélas, non. Donc tu vois, Philippe, c'est pas facile encore. Je pense qu'en plus, c'est pour tous les clubs de tennis, on n'est pas les seuls impactés, ce genre de choses, même si toutes les communes n'ont pas suivi. Mais donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Et donc si on veut avoir plus d'adhérents, si on veut fidéliser davantage, donc tous ces changements, c'est toujours un peu difficile. Je dirais aussi que au niveau des inscriptions, j'ai pas le retour direct, mais j'espère qu'on a à peu près le même nombre d'inscrits. J'espère autour de 150.
Donc ça veut dire que ça reste encore quand même malgré tout un sport important, le tennis au Perret.
Oui. Mais donc il faut qu'on œuvre davantage au niveau de l'équipe, au niveau des animations. On va en parler, beaucoup. Ça va être riche. On a quelque chose de très riche, justement, au niveau des animations, essayer de faire participer les gens, de nous faire toujours reconnaître, connaître. Et ça, c'est important aussi. C'est dans le monde de la communication. Aujourd'hui, on a tellement de communication, donc c'est pas facile. J'ai validé le nouveau planning du COIE, donc tu sais, donc c'est la possibilité qu'on a d'avoir des autres cours sur notre commune avec
la communauté de communes.
La communauté de communes, maintenant, donc c'est Rambouillet Territoire en plus. C'est le centre omnisport inter pour les étangs, donc qui a été validé. Donc aussi la réforme des rythmes scolaires qui avait changé, j'en ai parlé pour les plannings. Et donc maintenant, eh bien, nous avons, justement, ça tombe bien parce que nous avons eu vendredi soir notre réunion de bureau où nous allons pu valider donc toutes nos animations, les plannings. Donc là, c'est le petit scoop aussi pour le club.
Ouais. Donc là, on va en parler à la fin. Hein, on va regarder un peu.
Ça, ça en fait partie.
Voilà, c'est bien.
Mais on peut parler déjà dans le détail un peu de ce qu'on a fait pour la rentrée. Déjà, donc, la première chose, donc déjà, ça a été notre entrée du forum. Voilà, donc qui s'est, on va dire, aussi relativement bien passé, de façon très traditionnelle. Nous avons eu ensuite, après, donc, notre tournoi jeune, donc, qui rentre dans le cadre du Master Sudivine, donc, que Julien a organisé, que je remercie aussi pour cela. Donc, sachant que la nouveauté qu'on avait au niveau du Master cette année, c'est que les autres années, on avait 5 clubs qui officiaient, je dirais, avant l'été, au mois de mai-juin. Et 3 seulement qui officiaient au mois de septembre. Mmh. Et donc là, on a changé de manière à que ça soit plus équilibré. Et donc, on avait 4 clubs qui étaient en juin. Donc, c'était le Ménil-Saint-Denis, Ablis, Chevreuse et Guyancourt. Et après, donc, au mois de septembre, nous avons eu Cernay-la-Ville, le TC Rambouillet, le Perret et puis Saint-Arnoux là, qui a terminé le 24 septembre.
Et il y a eu la grande finale donc le week-end des 30 septembre et 1er octobre. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les résultats. Le site n'est pas complet, donc on ne pourra pas vous les donner.
On va tirer un peu l'oreille à Jean-Louis. Donc je pense qu'il a été pas mal pris pour la rentrée, mais il va le faire.
Ça s'est bien passé quand même cette finale.
Ça s'est très bien passé. Donc moi j'étais très content d'être allé à Guyancourt. Guyancourt c'est un club, on n'y va pas tellement. C'est un très beau club. C'est vraiment un très très beau club des Yvelines. Ils ont un très beau complexe. Ça c'est vraiment quelque chose. Bon, on n'a pas forcément suivant les conditions, l'historique pour faire choses comme ça. Donc c'est un complexe relativement neuf et il y a eu de très beaux matchs. Il y a eu de très beaux matchs. Donc ça a été encore une fois. Je rappelle que c'était quand même la 10e édition.
Déjà.
Voilà. Donc c'est quelque chose. Là, faut remercier aussi Jean-Louis Mazard qui s'en occupe vraiment très très bien sur le site, l'organisation de tous les matchs et tout. La petite nouveauté, c'était au niveau des filles, puisqu'on avait fait les catégories 12, 13, 14 ans et 15, 16, 17, 18. Donc ça, c'était pas mal aussi. Et comme je le disais, il y a eu aussi vraiment de beaux matchs. Donc c'est quelque chose, c'est pareil, toujours beaucoup d'affluence et d'aussi bien de clubs de toute la région et même d'autres départements. Voilà. Donc ça, c'était effectivement le master. Mais juste avant, nous avions le 23 et 24 septembre, tout le week-end, nous avions le tournoi RVE.
Oui, on en a parlé avec Jean-Michel il y a 15 jours. Hein, Jean-Michel Esprit, qui était notre invité pour le tennis club de Fargis. Voilà. C'est vrai que ça reste une fête sympa, conviviale. On a passé les interviews. Et on va rappeler que c'est Cernay-la-Ville qui s'est imposé cette année.
Exactement. Alors même si le Perret, on avait gagné les deux dernières fois, l'installer, on est arrivé dernier. Ouais. Mais c'est très bien. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu comme je disais en introduction... d'avoir RVE, d'avoir ces liens locaux entre les différents clubs, les petits clubs, ça peut être des petits, des grands, et voilà, ça c'est une bonne chose et quelque chose vraiment auquel on tient et on te remercie encore Philippe pour cela.
On est fiers parce que quand on a lancé ce trophée, on pensait pas que les clubs allaient y être autant attachés et aussi longtemps.
Voilà. Alors si je peux continuer, après pour toutes nos animations, parce que comme je disais, on va être à Chériche, on a près de 23 rendez-vous quand même tout au long de l'année. Voilà, animation, tournoi, choses comme ça. Donc on va enchaîner après donc là, au 23 octobre, on va faire une soirée vidéo aussi bien pour les jeunes que pour les adultes de 19 à 20 heures.
Donc c'est demain soir, faut pas oublier.
Exactement. Hein. Donc ça sera l'analyse avec les gestes et choses comme ça. Donc on profite un peu des vacances aussi pour faire cette animation. Nous aurons après, pour cette semaine sportive aussi, grâce à Julien, effectivement, nous continuons la semaine sportive avec la mairie, donc sachant que lundi matin, il y a une vingtaine de jeunes quand même qui seront sur les clubs pour pouvoir faire ces animations pendant toute la semaine sportive. Voilà, c'est quelque chose auquel on tient aussi. Après, nous enchaînons. Alors, sachant aussi que Julien fait des stages. Donc là, je lance un petit appel pour nos adhérents. Fait des stages aussi pendant ses congés scolaires. Donc ça, c'est important à noter. Nous allons enchaîner après le samedi 18 novembre où là il y aura une animation aussi bien adulte au départ mais après plus ado, sachant que nous allons aller à Bois d'Arcy faire une petite rencontre padel. Je te rappelle que le padel fait partie intégrante de la Fédération Française de Tennis. Et donc, ça sera de 15h à 17h.
C'est quoi? C'est une petite raquette?
Alors, c'est des petites raquettes.
Ouais, c'est ça.
Hein. Et voilà. Donc, ouais. C'est un format, c'est un terrain. Par exemple, sur un terrain de padel, c'est deux fois plus petit qu'un mmh. terrain de tennis. Mmh. Mais voilà, c'est très convivial. Il n'y a pas besoin de ça, très technique. Et voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu initié d'une certaine façon l'année dernière au club avec certains. Et donc là, on va le reconduire de nouveau. Et après, donc de 17h à 21h, donc il y aura une soirée jeu. Alors ça sera aussi bien toutes les PlayStation, du baby-foot, du ping-pong, des choses comme ça qui aura lieu au club. Voilà, donc on va faire tous les affichages, envoyer les mails et autres. On va enchaîner après avec le samedi 9 décembre, puisque là, ça sera le Téléthon. Oui. Donc,
toujours présent, hein, la section tennis du Perret. Hein,
voilà, chaque année. Autant la mairie font ça une fois tous les deux ans, autant nous, on tient effectivement à le faire chaque année. Voilà,
même vous, si... Pilo Rigole, ça se maintient au Perret. Hein,
voilà. On essaie de, même si les gains ne sont pas énormes, mais au moins, on essaie de maintenir cela. Nous allons, alors après, donc c'est la fête de Noël. On fera pour les petits donc une soirée fête de Noël où nos professeurs seront déguisés en Père Noël. Donc ça sera le mercredi 20 décembre, il me semble. Voilà. On retrouvera donc nos stages de Noël, aussi bien les jeunes et les moins jeunes pendant ces vacances. Et puis donc après, de façon très traditionnelle, le dimanche 7 janvier à 16h, nous serons l'assemblée générale du club. Donc c'est un moment fort où nous avons relativement du monde. Là, c'est pareil, donc je donne les dates. Inscrivez-le dans votre calepin. Nous suivons toujours après les congés de février. Donc sachant que, une petite parenthèse aussi, alors on n'a pas encore les dates, mais normalement on devrait aussi reprendre à ce moment-là, ou en janvier ou en février, les championnats des plus de 35 ans. Généralement, alors suivant la façon dont on est classé dans telle ou telle division, ça peut reprendre ou fin janvier ou au mois de février, voire des fois même au mois de mars. Donc là, on reprendra les compétitions, sachant que donc on a généralement une ou deux équipes au moins pour les hommes et aussi pour les dames. Donc ça, c'est quelque chose aussi où on est très traditionnel là-dessus et qu'on aime bien perdurer. On enchaîne après avec le 24 mars où là de 14 à 17 heures nous aurons spécialement pour les dames le fitness tennis, donc qui avait pas mal marché.
Grande nouveauté.
Voilà, qui avait pas mal marché l'année dernière et donc on va perdurer. C'est quelque chose qu'a amené Julien et voilà, donc j'espère que ça va aussi cette animation va bien marcher. Et puis on arrive au mois de mai où alors là c'est un peu plus délicat. Moi j'aurais souhaité qu'on reprenne le jumelage avec le club de Bellheim, avec la ville du Perret est jumelée avec cette ville. Et on a fait des échanges pendant 10 ans tous les ans. Ils adoraient venir à Roland-Garros. On faisait des animations. On changeait chaque année. Alors là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'effectivement, ils venaient pour notamment l'Ascension parce que il y avait Roland-Garros. Et le problème là, c'est que là, c'est le 10 et 13 mai. Et là, pour les recevoir, il y aura pas Roland-Garros à cette date-là. Ouais. Donc c'est un peu difficile. Donc je vais voir si on peut faire quelque chose. On essaiera de voir l'année prochaine. On fera après aussi une animation le mercredi 11 avril pour les œufs de Pâques, parce qu'on va arriver, c'est pareil, avant les vacances de Pâques, où on aura donc toujours les stages avec Julien. Et enfin, de nouveau, nous allons proposer pendant toute la journée notre journée, à Roland-Garros, donc là qui devrait avoir lieu le samedi 26 mai. Donc ça va vraiment très très bien marcher. Les gens étaient très contents de cette journée. On avait rempli un quart, hein, il y avait 55 personnes et vraiment ça c'était content. Donc là on va essayer de le programmer avec peut-être des horaires un tout petit peu décalés, que les gens en profitent davantage. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que c'est la veille de l'ouverture officielle.
Exactement, c'est l'ancienne journée bénie, c'est vraiment la journée caritative. On profite, voilà. On enchaîne donc Alors, je pense qu'on va faire aussi fin mai jusqu'à début juin, du 28 mai au 9 juin, faire les préinscriptions. On va s'y prendre un peu plus tôt parce qu'on n'avait pas assez de retours. Et ça, c'est quelque chose où je voudrais insister là-dessus. Les inscriptions sont... on essaie d'être le plus souple possible. Mais c'est quand même bien de pouvoir avoir déjà faire des préinscriptions et d'avoir déjà un maximum d'adhésion possible pour l'année suivante. Et donc le petit plus qu'on a envie de faire, c'est faire une réduction justement pour ces préinscriptions. Par exemple, ça peut être 5%, on n'a pas encore défini, mais voilà, ce qui serait vraiment aguicheur, de manière à ce que les gens puissent pouvoir se réinscrire le plus tôt possible.
C'est une façon de lutter contre les baisses des effectifs, quoi.
Exactement, aussi, ouais. aussi. Mmh. Donc voilà, c'est une solution. On va voir. On a d'autres projets aussi un peu à ce niveau-là, mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant puisque c'est encore tout frais, tout nouveau. Donc ça date de vendredi, comme je te l'ai dit. Et donc enfin, donc nous terminerons le samedi 9 juin. Donc déjà le matin par la fête de l'école de tennis pour les petits. Et donc l'après-midi après avec le trophée des familles qu'on fait chaque année, avec le soir soirée barbecue, où là on fera peut-être un peu de danse, un peu de choses comme ça et autres animations bien sûr, voilà. Donc tu vois, comme tu peux le constater, c'est très riche.
Oui, ça fait un programme bien riche, bien rempli, hein. Surtout où on voit que les familles ne sont pas oubliées, ça c'est important.
Ah oui, il faut absolument au niveau des animations que tout le monde puisse trouver sa part. Je te dis aussi bien les jeunes, aussi bien les femmes. On essaie vraiment d'essayer de concocter quelque chose un peu pour tout le monde, suivant les grands événements, comme je te dis, comme Roland Garros, comme le Téléthon. Donc on essaie de varier vraiment le plus possible à ce niveau-là. Voilà.
Mm-hmm. La baisse des effectifs, Hervé, est-ce qu'elle est aussi identique dans les autres clubs?
Oui, on peut dire de façon générale, la Fédération française de tennis est en baisse. On a eu deux congrès des présidents cette année qui nous ont sensibilisés. On a eu des retours là-dessus. Est-ce que c'est dû à l'équipe de France de ceci ou cela? Comme je te l'ai dit déjà en introduction aussi, on a beaucoup été impacté par les changements d'organisation au niveau des communes, des choses comme ça.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Donc ça fait rechanger comme ça du jour au lendemain, ça fait beaucoup de mal, c'est dur à organiser. Les gens sont beaucoup plus pris sur beaucoup de choses. Et là après, ça devient compliqué à pouvoir toujours organiser des choses comme ça de façon plus facile.
Mmh. Donc finalement, il n'y a pas de moment de découragement.
Non, on reste très motivé.
On reste toujours combatif.
On reste très motivé, oui, c'est toujours véritablement une passion et on continue, bien sûr.
Bon, c'est bien pour vous laisser souffler un peu de toutes les activités qui vont arriver dans les prochains mois. On fait un petit break musical et puis de pub, et puis on revient sur les cours de tennis et surtout les cours du Perret. Donc...
Dis-moi un peu, qu'allons-nous faire pour nous protéger de l'hiver qui rôde, du bois, de la paille ou des briques? Déjà le froid, j'ai les yeux qui me piquent, le loup souffle sur la plaine. Sous les ponts de la salle.
L'Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Perray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaires et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi, pour votre santé, bougez plus.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça ! Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, on repartira sur les cours de tennis tout à l'heure au Perret. Hervé, je sais que vous aimez bien la course à pied.
Oui, bah tu vois, je viens de reprendre, là c'est que je me suis fait opérer du pied, là j'ai une opération là où j'étais obligé de me faire couper trois doigts de pied, là on va dire, de les os, et bah j'ai repris, là j'ai fait 10 km ce matin, et voilà, ben bah, je tournerai peut-être plus à la fin de l'heure aussi.
Voilà, il est venu tout à l'heure à la radio, donc en courant, et puis il va repartir. Alors justement, eh bien la transition est bonne, puisque on va vous rappeler les résultats du trail de Mani les Hameaux. La semaine dernière, on avait eu donc Nathalie Appert, une des responsables, donc qui était très occupée hein, au téléphone en direct. Eh bien, on avait promis de compléter ce direct avec les résultats. Dans l'épreuve des 14 km, c'est Miloud Oubad qui s'est imposée en 54 minutes et 21 secondes. La première féminine, eh bien, c'est Charlène Letellier. Elle est 30e en 1h 9 minutes 49 secondes. 550 concurrents et concurrentes classées. Pour l'épreuve des 28 km, c'est Florian Montmea qui s'est imposé en 2h et 27 secondes. Hélène donc Bouilloux termine donc première féminine 37e en 2h46 minutes 57 secondes, 522 concurrents et concurrentes classés. Dans l'épreuve de la patrouille, eh bien c'est Thomas Plagnard qui l'emporte en 2h 20 minutes 34 secondes. La première féminine, c'est Aurélie Chang-Yung en 3h 28 minutes et 50 secondes. Et il y a 16 concurrents classés. Aurélie, elle, termine donc 14e. Et en marche, eh bien, c'est Bart Aben qui l'emporte en 1h 32 minutes et 20 secondes. La 18e et première féminine, c'est Marie-Pierre Roudot en 1h 50 minutes et 1 seconde. Et il y a 113 concurrents et concurrentes classés. Donc c'est vrai que cette épreuve de Mani les Hameaux, eh bien, elle fait aussi partie maintenant des grands rendez-vous de trail de la saison. Et puis tiens, la veille, à Limours, il y avait une épreuve, ça s'appelait les 4 pattes. C'était la 6e édition. Victoire de Florian Dupré, qui l'a emporté, hein. Il a couvert les 10 km en 39 minutes 15 secondes. Il est de l'équipe du TAM Crown Running. Et puis la première féminine, c'est Sophie Lorraine Videux qui l'emporte en 48 minutes 11 secondes. Elle est 19e. Il y a eu 245 concurrents et concurrentes classés au cours donc de cette 6e édition de l'épreuve des 4 pattes de Limours. Ça, c'était pour la course à pied. Et puis l'autre événement de la semaine, c'était naturellement le Tour de France hein, 2018. La présentation, c'était à Paris. Mardi, porte-maillot au Palais des Congrès, on y était. Alors on va quand même vous rappeler que ce Tour de France, eh bien, il débutera le 7 juillet. Il s'achèvera le 29 juillet. Ça sera la 105e édition, légèrement décalée à cause du mondial de foot, naturellement. 21e étape, 3329 km. Le départ se fera de Noirmoutier. L'arrivée se fera naturellement sur l'avenue des Champs-Élysées avec une dernière étape qui partira du département des Yvelines, de Houille. Et puis, il y aura 25 cols donc, qui seront franchis dans ce Tour de France 105e édition. Hervé, le Tour, c'est votre feuilleton de l'été aussi, comme beaucoup ?
Ah oui, oui, c'est quelque chose, c'est un des grands moments, quelque chose de mythique, je pense même à travers, c'est même pas la France, c'est à travers
oui,
le monde.
Oui, oui, oui. C'est à la fois un événement régional, national, international.
Complètement, comme les Jeux Olympiques, comme des manifestations.
Troisième épreuve sportive au monde. Hein.
Ah oui, 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 non, je pense que c'est vraiment une très belle épreuve, c'est très bien filmé en plus, il y a beaucoup de moyens, et ça, c'est vraiment, c'est très, très agréable à suivre.
Et en première semaine, il faut rappeler qu'il y aura une belle étape sur, les pavés, avec une belle arrivée à Roubaix, ça sera le 15 juillet, ça sera le jour de la finale de la Coupe du Monde, et puis quelques jours avant, on aura une arrivée donc à Chartres, tout près d'ici, qui sera d'ailleurs la plus longue étape de ce Tour de France. On aura naturellement l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'entre le Tour et le Mondial, on va se régaler l'été prochain. Voilà. Alors on va naturellement écouter quelques petites interviews. Il y a un bel équilibre en montagne entre les Alpes et les Pyrénées. Est-ce que c'est pas non plus l'opinion de Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R, la Mondiale?
Alors encore bien découpé en deux parts distinctes. Une première partie très dense avec du plat, des sprints, il y aura beaucoup de tension. Voilà, donc les grimpeurs, ceux qui ne sont pas à l'aise sur les bordures, seront sûrement très fatigués à la sortie de cette semaine-là. Donc aux équipes d'amener justement des pare-feux, des coureurs protecteurs. Voilà, nous je pense qu'on est bien armés maintenant dans ce domaine-là. Et puis après derrière un concentré de montagne finalement sur des épreuves assez courtes. Donc il y aura beaucoup de dynamisme, mais il y aura quand même un coureur de moins par équipe. Ce qui fait que pour maîtriser le maillot, c'est toujours un élément en moins. Voilà, donc c'est pas pour nous déplaire. Et je crois que l'équipe a montré aussi depuis un certain nombre d'années son savoir-faire. On est fiers de cela, on n'a pas la grosse tête, mais on a quand même réussi à faire en 4 ans 3 fois sur le podium. Et je pense qu'on va continuer à travailler pour cela, parce qu'on sait que cette course-là, comme les coureurs l'ont dit tout à l'heure dans les différentes vidéos, elle fait rêver tout le monde. Elle fait rêver les enfants, les spectateurs, les coureurs mais les équipes et les sponsors. Donc on va encore rêver jusqu'au bout.
C'est plutôt un bon parcours pour Bardet.
Je le crois, oui, je crois que Romain n'est pas quelqu'un qui a peur de ce qu'il lui a proposé. Et je pense qu'il a confiance aussi au travail de l'équipe. Et voilà, on va tout faire pour amener Bardet dans les meilleures dispositions et que son talent lui permette enfin d'aller décrocher le maillot jaune, ce que je le crois capable.
Et autrement, là, effectivement, le parcours, il est scindé en deux. Et votre recrutement, notamment avec Tony Galopin, va en ce sens qui peut vous aider à protéger justement Bardet jusqu'à Roubaix.
Tony Galopin, bien sûr, Sylvain Dillier, qui est quand même un gros rouleur, un spécialiste aussi des pavés, Oliver Nassen, qui est un gros rouleur, on a dans l'équipe Vandenberg, aussi, qui est un coureur de pavés, un gros rouleur, voilà. Et derrière, on aura quand même des coureurs pour la montagne, je pense que Pierre Latour, sans dévoiler encore quel sera l'effectif du Tour, mais je pense que Pierre Latour n'est pas encore assez mûr pour assumer le rôle de leader dans un autre grand Tour, donc il poursuivra certainement son apprentissage sur le Tour de 2018. Voilà, mais il faudra amener des coureurs solides pour la plaine et également capables d'accompagner Romain dans la montagne.
Okay, merci.
Voilà, merci effectivement à Vincent Lanu, interview qu'on a fait en commun avec tous les confrères, comme c'est la tradition dans tous ces grands événements sportifs. C'est vrai que c'est un tour bien équilibré, y compris au niveau de la montagne, entre les Alpes et puis les Pyrénées, puis une première partie avec beaucoup de plats, puis une deuxième où donc il y a beaucoup plus de montagnes, deuxième semaine surtout dans les Alpes, et puis une troisième dans les Pyrénées. Et comme l'a dit donc le manager de l'équipe AG2R la mondiale, Vincent Lanu, il y aura un coureur de moins, faut pas l'oublier, ils seront 8 par équipe cette année en 2018.
Hein. Voilà, c'est ce que je te disais hors micro là pendant l'interview. Oui. Je crois que c'est vraiment pas anodin. Oui. Et là, ça peut changer aussi beaucoup de choses parce qu'on sait le poids.
Les maillots,
exactement, dans la façon de manœuvrer après. Et ça, c'est quand on voit surtout, je pense que ça peut jouer à la fin de l'épreuve.
Voilà, et puis naturellement Bardet, il espère enfin peut-être décrocher le Graal, qui sait, une victoire. Et puis on n'oubliera pas que Tony Galopin, le régional, qui n'était pas là, il était déjà en vacances à l'occasion de cette présentation du Tour, eh bien rejoindra l'année prochaine Romain Bardet. Donc c'est bien, c'est deux beaux coureurs qui vont côte à côte essayer de ramener la victoire enfin française depuis Bernard Hinault, donc est le dernier français vainqueur en 1985.
Nous le souhaitons tous, c'est vraiment quelque chose qui ferait plaisir à tous nos Français.
Voilà, alors interview, tiens, d'un Français, justement, Brian Coquart, de l'équipe Vital Concept. Hein, il va rejoindre Vital Concept la saison prochaine. Alors, Brian Coquart, naturellement, il ne va pas gagner le Tour de France, hein, mais il a déjà coché quelques étapes, pourquoi pas, pour les remporter, donc, pour remporter notamment au sprint. Et puis, pourquoi pas, avec les ambitions, il peut y avoir le maillot vert.
Brian, Brian Coquart, alors, Brian, comment vous découvrez ce Tour 2018? Qu'est-ce qui vous inspire?
Bah déjà le départ dans ma région en tout cas dans le Grand Ouest, ça passera pas loin de la maison et ouais, ça va être un Tour de France mouvementé avec beaucoup de pièges et de spectacles, je pense.
Ouais, bien équilibré au niveau même entre la montagne et la plaine.
Ouais, il y a pas mal, en tout cas j'ai regardé, il y a pas mal d'étapes qui peuvent arriver au sprint, donc c'est intéressant.
Bon, c'est celle-là que vous avez coché en priorité, Brian.
Bien évidemment, je vais pas cocher celle de 65 km en montagne, ça sera pas possible, mais ouais non, c'est sûr qu'il y a pas mal d'étapes intéressantes.
Vous allez viser le maillot vert?
Je vais viser le maillot vert, il faudra déjà que je sois au départ du Tour de France et après viser le maillot vert, je pense pas que avec la suprématie de Sagan, je pense pas que je puisse dire avant le Tour de France je vise le maillot vert. Ça peut venir bien sûr, bien évidemment en cours de Tour de France, mais le but c'est voilà de gagner une étape, d'être régulier et de gagner une étape, et après si ça se passe comme je l'espère et comme dans mes rêves, bien sûr qu'après voilà le maillot vert peut être un objectif. Mais avant le Tour de France, ça serait c'est pas mon rôle et c'est pas ma place de dire je joue le maillot vert.
En tout cas, le Tour, ça sera la priorité pour 2018, naturellement.
Bien évidemment que je veux et que mon équipe soit aussi au départ de cette grande fête, de ce point central d'une saison de vélo qu'est le Tour de France. Et donc, c'est sûr qu'il va falloir faire le maximum. Que je sois opérationnel aussi dès le début de saison pour avoir des résultats pour Vital Concept, pour qu'on fasse un départ en fanfare. Et si voilà, si ça se passe très bien et on gagne beaucoup rapidement, voilà, on aura tout fait pour être au départ du Tour de France.
Très bien, merci Brian.
De rien.
Voilà, merci à Brian Coquart. Et comme on disait juste avant de lancer l'interview, hein, il vise la victoire d'étape et puis pourquoi pas le maillot vert, naturellement. Comme on sait que l'appétit vient en mangeant pendant un Tour de France. Allez, David Lapartien, le président de l'UCI, qu'on a eu aussi en commun avec nos amis de la radio vendéenne Alouette FM. Bah, David Lapartien, il a une particularité, c'est qu'il il a été élu il y a quelques semaines président de l'UCI, après avoir été président de la Fédération française de cyclisme, et aussi maire de Zarzeau, une ville de Bretagne qui va recevoir en première semaine le Tour.
Évidemment, maire de Zarzeau et maintenant président de l'UCI, vous êtes le plus heureux des hommes.
Je suis assez heureux, mais ça engage aussi sur l'ensemble des chantiers qui a mené. Heureux de voir que la passion autour du Tour de France, on voit aujourd'hui encore une magnifique présentation. On sait aussi qu'un départ en Vendée avec un passage en Bretagne, le Tour vient se ressourcer dans le public qui aime le Tour, qui a fait le Tour de France. Ça va être un formidable départ. Et puis, eh bien, en quittant la Vendée et les Pays de la Loire, ils viendront rejoindre une belle commune dont je suis le premier magistrat, Zarzeau. Et c'est aussi un joli clin d'œil. Mais on aura, c'est sûr, un beau Tour de France qui a été, Christian Prudhomme s'est savamment avec toute son équipe distillé un parcours toujours inédit qui nous trouve toujours des nouveautés avec ce chemin en terre, avec cette étape de 65 km au fort dénivelé. Bref, on va avoir, et puis tous ces pavés, je pense que c'est bien, ça fait aussi partie du bagage d'un coureur cycliste de savoir bien finalement triompher dans toutes les circonstances, et c'est un beau clin d'œil aussi à Paris-Roubaix, et moi j'aime ce parcours.
Puis j'imagine que vous attendez beaucoup d'un certain Warren Barguil.
Alors oui, on attend beaucoup de Warren Barguil. Il a fait un Tour de France absolument extraordinaire cette année, avec deux victoires d'étape, presque trois. Il y en a une qui a échappé de peu. Je suis sûr qu'il sera encore en très grande forme avec le Tour de France qui vient dans son département, je dirais dans notre département, le Morbihan, et avec vraiment beaucoup de cols. Je pense que ça va lui aller comme un gant, et il pourra au moins avoir le maillot à poids, et puis peut-être encore plus.
Comment ça se passe au début à la tête de l'UCI?
ça se passe bien. Après, il faut être dans les dossiers. Il y a des dossiers assez urgents sur la fraude technologique, sur l'organisation au niveau institutionnel de la lutte antidopage avec toutes les évolutions en ce moment de l'Agence mondiale antidopage et du CIO. Donc, il faut aussi prendre la mesure de l'ensemble des dossiers. Donc, j'ai pas trop voyagé pour l'instant pour me concentrer justement dans la prise de fonction au siège de l'UCI. Et à partir de cette semaine, je vais commencer à aller visiter d'autres continents.
Et vous réussissez à être entre la présidence de l'UCI et aussi être maire de Sarzeau?
J'y arrive, voilà, c'est engageant. Si on travaille 35 heures, on n'y arrive pas. Mais il faut travailler tout le temps. J'arrive à faire les deux parce que j'ai la passion du cyclisme. Et j'aime bien aussi ma commune dont je suis originaire. Je verrai bien sûr si tout ça est compatible, mais ça me le semble pour l'instant l'être. Et puis j'ai une formidable équipe aussi à la mairie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, en tout cas, merci à David Lapartien qui a fait la dédicace à ce supporter dans la foulée. Il est bien le président Lapartien. On l'avait souvent interviewé au moment des championnats du monde sur piste il y a maintenant 3 ans. Il est devenu président de l'UCI, c'est bien. C'est bien. Et en plus, maire de Sarzeau quand même.
Oui, Sarzeau, c'est une très belle commune. Ouais. Moi, pour y avoir été quelques fois. Et vraiment, à prendre ces deux responsabilités. Vraiment chapeau. Oui.
Et c'est bien comme ça qu'il y ait comme ça des jeunes présidents qui arrivent dans les instances internationales.
Tout à fait.
On se rappelle de Michel Platini pour le foot, de Bernard Lapassé pour le rugby, et maintenant donc David Lapartien pour le vélo. Et puis on avait aussi le basket avec Yvon Manini. Hein, donc ça c'est bien.
Voilà, il faut, c'est nécessaire aussi.
Très bien. Alors, justement, cette 105e édition, elle aura une particularité aussi, c'est qu'il y aura une grande épreuve de course de côte, pratiquement, hein, ouais. 65 km. Ça va être une véritable épreuve, souvent bien plus sélective que des étapes longues de montagne où on temporise un peu sur les premiers cols, si prestigieux soit-il. Et dans une des étapes des Alpes, on franchira une portion de 2 km non goudronnée. Ça aussi, c'est une grande première.
Oui, alors là, je pense pour tout ce que tu viens de dire, là, je pense que ça va vraiment être, entre guillemets, une tuerie. Ce genre de choses. Ah oui, je pense que c'est un peu relativement nouveau, on va dire. Et je pense que là, on risque vraiment d'avoir des surprises.
En tout cas, on a hâte déjà d'être dans cette 105e édition du Tour, parce que c'est vrai qu'on arrive à innover chaque année. C'est indispensable d'innover sur le Tour de France. Après, même si ce sont les coureurs qui font la course.
Oui, j'espère juste qu'on n'aura pas de vélo électrique.
Non.
Voilà.
Mais
c'est sûr. Après, il y a toujours beaucoup de recherches à tous les niveaux, même au niveau maintenant, on le voit, tous les sports, de toutes les préparations, de tout ce qu'ils font, même des fois à l'étranger pour se préparer pour ce Tour de France et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de respect pour tous ces gens.
En tout cas, on va avoir quelqu'un maintenant au micro qui a fait 41 Tours de France. On l'a souvent sur RVE. Il aime bien venir nous parler de l'histoire du vélo. Hein. On l'a vu au Critérium cycliste de Longjumeau au mois d'août dernier. Interview qu'on peut retrouver d'ailleurs dans notre première émission sur le site du 10 septembre dernier. C'est Daniel Mangias, hein, 41 Tours de France. Daniel, même s'il n'est plus présent sur le Tour, il reste très actif au niveau speaker des courses de vélo. Et vous allez voir, il n'y a aucune nostalgie de sa part, même s'il est ravi et qu'il est impatient d'attendre déjà 2018. Daniel Mangias, alors comment se présente ce Tour 2018? Comment vous le trouvez?
Je le trouve très difficile. On a vu d'ailleurs la petite moue de Romain Bardet sur la présentation d'une étape. Non, c'est un parcours très exigeant. Bon, le contre-la-montre ne pèsera peut-être pas très très lourd parce qu'il y a le temps de faire la différence bien avant. Donc je crois qu'on va avoir, comme d'habitude, ce sont les coureurs qui font la course, dit-on. Là, on devra avoir un tour débridé. Et puis surtout, il faudra être au top de sa forme parce que c'est un tour qui n'autorisera pas de passage à vide. Donc il ne faudra pas avoir le jour sans.
Oui, avec une belle étape sur les pavés d'abord.
Voilà, absolument. Ça peut jouer partout. Je pense que ça va être très très nerveux d'emblée, dès le départ en Vendée. Le Tour de France, chaque jour, est évidemment important parce que gagner une étape, ça pèse dans la carrière d'un coureur. Donc je pense qu'on va avoir une course particulièrement intéressante. Et puis on sait que les Français tournent autour du podium, de la plus haute marge du podium depuis quelques années. On souhaite enfin que ça se concrétise. Et ce serait pas mal que ce soit 40 ans après la première victoire de Bernard Hinault.
C'est bien équilibré entre les Alpes et puis les Pyrénées.
Oui. Je l'ai dit, c'est musclé. C'est vrai qu'il faudra être un coureur. faut pas arriver à 60% de ses moyens ou 70% parce qu'on subira la course. Donc je pense qu'il y a un bel équilibre qui va nous valoir une course attrayante.
Et puis il y aura une étape qui partira de Fougères.
Oui, bah là j'irai la voir.
Oui, voilà.
J'irai au départ, ce sera chez moi. Donc j'irai saluer tous mes amis fougerais. Et puis après je rentrerai à Saint-Martin-de-Londel. On avait accueilli le Tour à 14 juillet en 2002. Et puis pour moi, Fougères c'est une ville de vélo. C'est, j'ai une pensée pour Albert Bouvet qui nous a quittés il y a peu. C'est les frères Groussard, Joseph, Georges, Albert, Pierre et les autres. C'est Henri Batté, c'est Alex Delanoë, c'est mon cousin Roland Mangias qui avait gagné la Sorbreton. C'est Philippe Tanière, c'est Emmanuel Hubert. C'est toute une ville de vélo. Donc c'est très bien comme Tour de France y aille.
Bon Daniel, vous allez foutre ça devant la télé, ça va pas être trop difficile quand même?
Ben non, je continue d'animer. Hein. Oui. Si j'avais tout arrêté, je pense que ce serait pénible pour moi. Mais comme je continue à faire toutes les courses, 4 jours de Dunkerque, Coupe de France, Plouet, Plumelec, Championnat de France, Championnat d'Europe. Non, j'ai autant de boulot qu'avant. Il y a juste que le mois de juillet où je me mets les pieds sur la plage, soit à Granville, soit à Saint-Malo. Donc,
Il n'y a pas un peu de vide quand même? Non,
j'en ai fait 41. Hein. J'étais tout seul, je faisais départ et arrivée. Donc non, j'ai fait le tour. J'en ai fait le tour, c'est le cas de le dire. J'en ai fait 41. Donc il y a un temps pour tout. J'étais tout seul. Donc maintenant, il y a une équipe d'animation. Le stress est plus partagé qu'il ne l'était à mon époque. Donc non, c'est très très bien. Vous savez, il faut réussir son entrée, il faut réussir sa sortie. Je pense que j'ai réussi les deux. Alors, il ne faut jamais vivre avec des regrets. Je savoure. Là, je viens du chrono des nations. Je pars chez mon fils en Norvège. Après, je vais faire la Coupe du Monde de cyclocross. Donc non, je pensais qu'en arrêtant le tour, j'aurais moins de boulot. Finalement, j'ai presque plus de boulot qu'avant. Ma femme me dit, tu devais ralentir. Mais j'ai l'impression que c'est une accélération.
Très bien, merci Daniel.
Merci.
Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir Daniel Mangias à notre micro. Quelle encyclopédie, hein. Puis je vous dis, hein, il est toujours aussi occupé et il a déjà hâte d'être à 2018.
Ah oui, cette énergie, ouais. Cette volonté, toujours cette passion. Ça c'est très fort.
Ah, ouais. Allez, dernière interviewée, c'est quelqu'un qui a failli être pro en foot. Il est devenu pro en vélo. Il a été consultant sur des radios et des télés pendant quelques saisons. Puis là, il monte maintenant son équipe puisqu'il devient le manager général de l'équipe Vital Concept. Eh bien, c'est Jérôme Pinot.
Jérôme Pinot, comment vous trouvez ce Tour 2018 dévoilé aujourd'hui?
Écoutez, c'est un beau tour. Hein. On passe en Bretagne, donc c'est toujours un beau tour. Ouais. C'est sur l'équilibre difficile, oui. Avec des quelques nouveautés, notamment là. La durée des étapes, des étapes très courtes, certaines, avec des gros dénivelés, des nouveautés dans la montagne, un passage sur la terre, sur les pavés. Il est complet ce tour, il est beau, et le meilleur gagnera, et nous, on essaiera de gagner des étapes.
Oui, parce que vous allez monter votre structure, hein, maintenant, en 2018.
Ouais, l'équipe Vital Concept sera au départ de la saison prochaine, et on espère bien avoir fameux sésame pour aller sur la grande boucle. Pour ça, il faut qu'on soit bon avant. Ouais. Et on a un parcours qui convient à nos capacités. Donc on espère être présent.
Bon, vous ne serez pas derrière le micro, pas de regret?
Pas de regret, c'est la fin d'une belle aventure. C'est peut-être une parenthèse pour le moment. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je crois que d'après ce que j'ai entendu, ça a plu. Les gens aimaient bien. Maintenant, je vais aussi faire ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie, c'est-à-dire manager cette équipe. Et puis après, peut-être qu'un jour je reviendrai. Mais pour l'instant, je vais laisser les autres parler sur mon équipe en espérant qu'ils en parlent bien.
D'accord. Très brièvement, c'est un tour que vous auriez aimé courir?
On aime faire le tour quand on est coureur cycliste pro. Encore plus quand il passe dans votre région d'origine, quand il passe près de chez vous. Parce qu'on a une étape partant de la Baule à 40 km et puis on arrive à 40 km de notre centre de performance. Donc forcément, on a envie de le faire, ouais. Maintenant, je vais prendre aussi du plaisir quand mes coureurs y seront.
Bien sûr. Bon, l'été sera beau. Il y aura le vélo, puis il y aura le foot que vous aimez aussi.
Oui, bien sûr. Il y a cette fameuse finale de Coupe du Monde de 15 juillet.
On verra. Sur l'étape des pavés.
Exactement. On verra. J'espère que les France va gagner.
Merci, Jérôme.
Merci.
Voilà. En tout cas, beau destin que le destin de Jérôme Pinot. Le rendez-vous donc est pris pour le 7 juillet pour le départ de cette 105e grande boucle. Et naturellement, on sera en plein mondial de foot. Mais enfin, tout ça, on aura l'occasion de vous en reparler. Hervé, avant, il y aurait eu Roland Garros. Peut-être qu'un Français peut gagner Roland Garros. Et puis avant, on aurait eu la Coupe Davis quand même. On va la gagner, cette Coupe Davis. Là. C'est la bonne. On a oublié de poser la question à Jean-Michel Lesprit il y a 15 jours. Il était un peu pressé pour partir, Jean-Michel. Mais là, on va la gagner. C'est l'année ou jamais contre les Belges.
Oui, si là, on ne la gagne pas. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour Goffin, qui est vraiment vraiment un très beau joueur là qui est arrivé dans le top 10 en plus. C'est vraiment quelque chose. Bon, la Coupe Davis, c'est vraiment très spécial.
On a le sentiment que les joueurs la boudent un peu là maintenant depuis quelques temps. Là, pourquoi? Parce que c'est prestigieux quand même.
Oui,
on veut gagner la Coupe Davis comme on souhaite gagner Roland Garros.
Voilà, enfin, on a tout l'historique de nos mousquetaires et forcément, c'est là, même si c'est fait à Lille. Je veux dire, on a toujours cette volonté, cette énergie. Alors on a Yannick qui est revenu au Capitana.
Chaque fois qu'il vient, on gagne. Hein. Au moins une Coupe Davis, alors.
si ça permet de le gagner, très bien. Donc là, je pense qu'on a eu aussi des choix qui nous ont été beaucoup plus facilités par rapport aux blessures de certains. Ce qui nous a permis d'arriver à ce stade en finale. Maintenant, je pense qu'on serait vraiment très très déçus à Lille, même si c'est près de la Belgique, de pas gagner cette Coupe Davis. Mm-hmm. Encore une fois, donc là, j'entendais hier matin là, samedi, l'interview de Tsonga, qui me disait que il était en forme, il revenait, donc il faisait son bon tournoi actuellement. Donc c'est c'est des valeurs sûres. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont très bien, comme Pouille et autres. Là, je pense vraiment, on a vraiment une carte à jouer. Et là, si on ne gagne pas, bon, sachant que le numéro 2 ou 3, l'équipe de double belge, sont quand même un ton en dessous par rapport aux nôtres. Donc on a vu notre très beau double la dernière fois avec Mahu et puis c'était Mahu et puis
Benetto, je sais pas.
Notre jeune, voilà. Ouais. Et donc ça c'était vraiment là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Tu me parlais après de
Roland Garros. Hein, Roland Garros, ce serait bien l'année. Hein. On gagne Roland Garros, on gagne le mondial de foot et on gagne le Tour de France avec des Français. Ça serait une année exceptionnelle. Bon, enfin, ça n'arrivera pas.
T'avais l'interview de mon fils, je crois, la semaine dernière, où il dit, de toute façon, c'est très clair, hein, il suffit de prendre les statistiques. Quand t'as Nadal qui gagne 10 fois sur les 11 dernières années, qui gagne Roland Garros, quand tu vois Federer qui gagne encore à son âge, quand tu vois le début de saison qu'il a fait en Australie, qui a battu
il gagne l'Australie, il gagne donc Melbourne,
Melbourne
et Wimbledon,
voilà. Les futurs, je veux dire, c'est impressionnant. Encore là, il a gagné Nadal, oui, il vient de gagner Nadal. Nadal. Quand on a encore ces gars-là, Djokovic qui va revenir aussi, je veux dire, c'est pour un Français, c'est très très dur. Il y a la pression et puis en plus, il y a encore ces gars-là. Je veux dire qu'ils sont loin d'être terminés. Donc, moi, je pense que ça sera très honorable si on a un quart ou un demi, voire en finale. Mais je veux dire, il faut pas chercher s'il y en a un au-dessus. Je pense que c'est tout à leur honneur de pouvoir participer, même sans gagner forcément.
Allez, la deuxième page de pub.
Just us. Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, et puis vous n'oubliez pas, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, comme toutes celles depuis le début de saison et puis des saisons précédentes. C'est Pierre-Yves Herbert,
oui,
qui était associé à Mahut. C'est bien ce qui nous semblait, mais enfin, fois-ci, c'est officiel.
Oui.
Alors, Hervé, on peut venir quand même vous rejoindre si cette émission aurait suscité des vocations. Et quels sont les prix d'une licence et d'une cotisation chez vous ?
Alors, on va dire, je crois qu'on doit être les moins chers du canton, puisque, de toute façon, les licences, c'est le prix de la licence pour toute la fédération dans tous les clubs de France. L'adhésion avec la licence pour un jeune est de uniquement l'inscription, c'est 80 euros pour un jeune et c'est 121, donc avec la licence pour un adulte ça fait 150, donc c'est vraiment des prix très très
honnêtes,
oui, on va dire, voilà. Sachant qu'après il y a tout un, suivant le nombre de cours et tout ça,
il y a la raquette, il y a les balles, mais enfin ça c'est à la charge du pratiquant, puis ça peut durer un petit moment quand même.
Oui, voilà.
Très bien, merci Hervé d'être venu à ce micro. Juste une dernière annonce.
Oui, les deux, c'est. Avant, c'est de dire qu'effectivement, prochainement, je reviendrai sur ton antenne.
Aucun problème.
Et là, je serai accompagné avant la fin de l'année, d'Antoine, un tout jeune de chez nous, qui est un des tout meilleurs Français, qui a 12 ans. Et qui fait déjà des tournois européens, donc ça c'est
un futur grand nom du tennis.
J'espère pour lui. Et voilà, c'est vraiment une opportunité qu'il puisse parler, qu'il puisse nous dire son ressenti justement même à son âge. Il sera accompagné de son père. J'espère qu'aussi là il nous donnera aussi
l'émotion du
quelque
papa,
chose. Voilà. Ouais. Et puis le petit scoop, je ne sais pas sais déjà, ça a été signé par Marc Robert, donc président de la communauté. De communes. Donc, normalement, le SMI de Rambouillet devrait avoir lieu le dimanche 11 mars.
Oui, on savait qu'il allait revenir.
Ça a été signé. Donc,
C'est une bonne nouvelle. On sera en direct comme chaque année. Voilà. Merci en tout cas, Hervé. À très bientôt.
Merci à Hervé. Merci à toi, Philippe.
Pour le tennis. On va remercier Arthur d'avoir été une nouvelle fois ce matin très brillamment aux manettes. Et puis, on vous laisse maintenant entre de très bonnes mains la suite des programmes sur l'antenne d'Hervé. Et rendez-vous pour nous dimanche prochain, 10h-11h. Tiens. On continuera dans le vélo. C'est Jean-Michel Richefort, vice-président de la Fédération française de cyclisme, qui sera notre invité. Bon dimanche à tous et à toutes. Salut.